Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui ont pu trouver des places à côté de la manifestation, de la commémoration de ce matin. Je vous accueille avec la joie du Seigneur qui est avec vous, à côté de vous. Et nous accueillons particulièrement ce matin, bien sûr, le Seigneur qui ne fait jamais défaut à ses paroles, jamais, jamais. Mais nous accueillons aussi le pasteur Joël Chédru avec son épouse. Alors on va d'abord leur demander de se lever, madame aussi, parce que sinon madame elle reste toujours dans les bagages. Voilà, madame Chédru, monsieur Chédru du Havre. Et c'est le frère Joël Chédru que nous avons déjà reçu, première fois dans cette église, qui va nous apporter la parole de Dieu pour ce jour, ce matin et cet après-midi. Alors, mon cher frère, on a discuté depuis hier soir. Je vous laisse maintenant, je te laisse la parole. Que Dieu te bénisse. Nous t'attendions, nous t'accueillons. Et Dieu est avec toi. Amen. Alors, pour qu'on t'entende, il te faut une deuxième voix. La voici. Je suis obligé de garder le micro-cravate pour intervenir. C'est toujours un petit sport de le démonter. Ça.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous entendez ?
Parfaitement. Faut pas que je parle trop fort.
Oh, ça va.
Ça va. En effet, ça fait 3 ans, la dernière fois que nous sommes passés au milieu de vous, et j'avais eu l'occasion de voir un peu le chantier. Aujourd'hui, je vois le travail fini. Chapeau. Pour la qualité du travail, jusque dans les détails, on y voit que le travail a été fait avec cœur. Dieu mérite toujours le meilleur. Que son nom soit béni. Voilà, sans tarder, nous ouvrons la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen.
Amen.
Justice que nous avons obtenue par la grâce de Dieu. Comme vous venez de le chanter, je ne connaissais pas ce cantique, et il est vrai que c'est grâce à la grâce de Dieu que nous sommes réconciliés avec Dieu et sauvés par la puissance de Jésus-Christ. L'hébreu, le grec, moi j'y perds mon latin. Mais j'ai à la maison plusieurs traductions françaises qui ne se contredisent pas, mais qui se complètent harmonieusement et qui, quelquefois, apportent un éclaircissement précis. J'ai lu dans une version, ce texte du verset 8, où il est dit ceci, « L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Je renonce à tout pour cela. Et une version a traduit, « Le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de connaître Christ. » Et je crois que nous sommes immensément riches non pas financièrement selon ce monde, mais quand on a le Christ dans sa vie, on est immensément riche. Nous possédons le bien le plus précieux, celui qui de loin dépasse tous les autres. J'ai regardé dans mon dictionnaire de langue française au mot « bien ». On y retrouve quelques synonymes comme ceci, un avantage, un bénéfice, un héritage, un patrimoine, une richesse. Vous n'avez peut-être pas d'espérance d'hériter de vos parents qui n'ont pas de biens matériels, mais ça n'a pas d'importance. Nous avons un héritage glorieux qui nous est préparé là-haut dans la gloire. Et déjà, nous en bénéficions par le fait que Jésus vit en nous par son esprit. Le bien qui de loin surpasse tous les autres, le plus précieux, c'est de connaître Christ. Bien sûr, il n'est pas question ici d'une connaissance purement intellectuelle, celle qui malheureusement quelquefois enfle d'orgueil, comme le dit l'Écriture sous la plume de l'apôtre Paul, mais d'une connaissance spirituelle, connaissance expérimentale, connaissance qui provient d'une relation avec le Seigneur. Quelqu'un a dit, ce que nous connaissons est comme une goutte d'eau, ce que nous ignorons est comme un océan. Or, il n'y a pas de quoi bomber le torse si nous avons acquis beaucoup de connaissances, nous en connaissons peu par rapport à tout ce que nous pourrions connaître. J'aimerais souligner ceci. Un jour, Jésus a dit à l'un de ses disciples, Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. » Ça m'a fait réfléchir. N'oublions pas que Philippe était un des premiers disciples de Jésus. Philippe a vécu avec le Seigneur pendant 3 ans. Il a entendu une quantité de prédications. Il l'a vu accomplir un nombre impressionnant de guérisons, des miracles extraordinaires. Il l'a vu calmer la tempête, il l'a vu même ressusciter des morts. Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu. » Il n'avait pas réalisé la personnalité de Christ, ce qu'il était vraiment. Il n'avait pas réalisé, il n'avait pas encore compris qu'il n'était pas seulement un envoyé de Dieu, mais le Fils de Dieu. Il n'avait pas encore réalisé que Jésus est Dieu, que de conditions divines de toute éternité, il s'était abaissé jusqu'à devenir un homme, un serviteur. Il avait besoin de découvrir qui était vraiment Jésus. Et je pense que malheureusement, on peut venir aux réunions entendre la parole de Dieu régulièrement. On peut même lire sa Bible à la maison et ne pas connaître Jésus ou le connaître si peu. Or, souvenons-nous de cette parole de l'Écriture, Jésus, dans sa prière sacerdotale, disait à son Père, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Non pas une connaissance purement intellectuelle, mais une connaissance spirituelle, une connaissance expérimentale, le fruit d'une relation avec le Seigneur. Vous savez qu'on dit souvent, c'est en vivant avec les gens qu'on apprend à les connaître. Et c'est en vivant cette relation avec le Seigneur qu'on apprend véritablement à le connaître. Et quand on a cette relation avec le Seigneur, eh bien, il déteint sur nous. Il déteint sur nous. Quelquefois, on entend cette réflexion, depuis qu'il est marié, il n'est plus le même. Il y a eu un changement. Quand on a cette relation avec le Seigneur, il déteint sur nous. La parole de Dieu nous dit, nous sommes transformés constamment d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle.
Dans la Bible, Dieu se révèle par ses différents noms. Je cite rapidement « Je suis, son éternité, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, Yahvé Shalom, l'Éternel qui apporte la paix, Yeshua, Jésus, Dieu sauve. » Jésus dira dans sa prière sacerdotale, parlant de ses disciples et s'adressant à son Père, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. » Ils ont acquis une certaine connaissance du Seigneur, mais ils ont, et je pense que nous pouvons dire aussi, nous avons tellement encore à découvrir le bien le plus précieux. Celui qui surpasse tous les autres, c'est de connaître Christ, notre bien-aimé Sauveur. La parole de Dieu nous invite à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La croissance, c'est le propre de la vie. Là où il y a la vie, il y a croissance. Vous savez que les enfants disent souvent « quand je serai grand ». Un jour, j'ai fait une course dans un magasin avec une de mes filles qui était petite. J'ai payé avec un chèque. Et en sortant du magasin, ma fille m'a dit « quand je serai grande, je ferai comme toi, je paierai avec des chèques, comme ça je garderai mes sous. » Depuis, elle a compris. Mais c'est que ce qu'elle savait. Et pour elle, il n'y avait aucun doute, c'était une évidence. Elle devait grandir. Quand je serai grand. Et mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous contenter de ce que par la grâce de Dieu nous avons pu acquérir au fil des mois ou des années, mais nous devons avoir à cœur de croître, de grandir dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour croître, l'enfant doit se nourrir. Et pour croître spirituellement, nous devons nous nourrir du pain du ciel, c'est-à-dire de Jésus et de sa bonne parole. C'est évident.
C'est une évidence. Non pas en nous contentant de lire vite fait, bien fait, un court passage de la Bible pour tranquilliser sa conscience. Mais comme le dit l'apôtre Jacques, en plongeant nos regards dans la loi parfaite. Je sais nager, mais je ne suis pas un champion et je n'aime pas nager la tête dans l'eau. Quand vous avez la tête à fleur de l'eau, vous voyez de l'eau, c'est une image uniforme. Si le ciel est bleu, l'eau est bleue. Si le ciel est gris, l'eau est grise. Mais vous avez tous, comme moi, vu un jour au moins une vidéo du commandant Cousteau, et nous découvrons les merveilles qu'il y a dans le fond des mers. C'est extraordinaire. Si je lis la Bible superficiellement, je ne vais pas découvrir grand-chose. Je vais être comme Philippe, vivre avec Jésus, mais ne pas vraiment le connaître. Mais si je plonge mes regards dans la parole de Dieu, si je m'arrête, si je réfléchis, si je médite sur ce que je lis, me posant des questions, en demandant, comme le dit le psaume 119, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi », alors le Seigneur, par son esprit, va me révéler ce qu'il est véritablement et ses desseins bienveillants, sa volonté à mon égard. Frères et sœurs, nous devons considérer l'importance pour nous pour croître, pour que notre foi augmente, pour que notre amour progresse, pour que notre croissance nous amène à ressembler toujours plus à Jésus, jusqu'au jour où nous serons avec lui, où nous serons semblables à lui, de nous nourrir de la parole de Dieu. C'est Jean Chrysostome au IVe siècle qui disait ceci, « Il n'y a que le diable qui puisse détourner les chrétiens de la lecture des livres saints parce qu'il ne peut souffrir qu'ils s'enrichissent à ce précieux trésor
le bien le plus précieux. Jésus et la parole ne font qu'un.
Georges Müller, connu pour son orphelinat à Bristol, en Grande-Bretagne, un homme de Dieu qui a nourri sans aucun secours d'association quelconque, mais seulement par la grâce de Dieu, environ 1000 orphelins au cours de son ministère, dira ceci: la vigueur de notre vie spirituelle sera à la mesure exacte de la place que tient la Bible dans notre vie et nos pensées. Peut-on vraiment dire « j'aime Dieu » et négliger sa parole? Puisqu'on sait que Jésus, c'est la parole faite chair. Et je peux mesurer mon amour pour Dieu, pour Jésus, à la manière dont je considère la parole de Dieu et la place qu'elle tient dans ma vie. Un serviteur de Dieu, arrivant dans une église pour en prendre la charge, au bout de quelques semaines, a eu à cœur de faire un sondage anonyme dans une assemblée de Dieu. Il y avait différentes questions et chacun a pu répondre anonymement. Et en parlant avec ce frère, il m'a dit ce qui m'a marqué, et ça m'a marqué aussi. D'après ce sondage, dans cette assemblée de Dieu, en Normandie, 33% des chrétiens avaient écrit qu'ils lisaient leur Bible tous les jours à la maison, y consacrant en moyenne 15 minutes, certains plus, d'autres moins. Alors si je compte bien, 33% des chrétiens membres de cette église qui lisaient la Bible chez eux tous les jours, 67% ne la lisaient pas tous les jours. Et 5% membres de cette assemblée ont écrit honnêtement qu'ils ne lisaient jamais la Bible à la maison, se contentant des réunions. Si nous ne sommes pas nourris, fortifiés par la parole de Dieu, nous allons être sous-alimentés spirituellement et le risque de devenir une cible de la part de l'ennemi. Quand avec une fausse doctrine, et il y en a tant qui circulent aujourd'hui, il nous dira à l'oreille « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Ça ne vous rappelle pas quelque chose? À l'origine, dans le jardin d'Éden, et nous savons ce que cela a pu donner. Peu avant sa mort, David, donnant ses dernières instructions à son fils Salomon pour la construction du temple, lui dira ceci: « Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. » Connais le Dieu de ton père, le bien le plus précieux. Celui qui de loin dépasse tous les autres, c'est de connaître Christ. Et je répète, non pas d'une connaissance purement intellectuelle, historique, mais de cette connaissance spirituelle, expérimentale, relationnelle. Nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs, donner à nos enfants un meilleur héritage culturel, moral et spirituel que la connaissance de Dieu et de sa parole. Je bénis Dieu de ce que j'ai eu le privilège de naître dans un foyer attaché à la parole de Dieu. Un foyer qui, par sa vie, mes parents, par leur vie, m'ont montré pour eux l'importance de la parole de Dieu et l'importance de la vivre au quotidien. J'ai vu dans certaines circonstances mon père, qui était artisan, faire des choix qui, humainement parlant, était néfaste à ses affaires, mais qui, par attachement à la parole de Dieu, est resté fidèle aux principes bibliques dans l'honnêteté, et il a vu ensuite la bénédiction de Dieu. Je crois, mes frères et sœurs, que nous ne pouvons pas donner
meilleur héritage culturel, moral, spirituel à nos enfants que le respect, l'amour de la parole de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, nos enfants sont exposés à ce que nous, adultes, nous n'avons pas connu. Et permettez-moi de dire qu'il nous faut les blinder contre les assauts d'immoralité, de tout ce que vous voulez, qui les assaillent dans ce monde d'aujourd'hui. Un des textes de la Torah, un texte clé, dit ceci: « Écoute, Israël, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » Une version a traduit: « Tu en parleras chez toi, dans ta maison. » Inculquer, c'est graver dans l'esprit, dans la mémoire. Inculquer, c'est faire entrer de façon durable. Inculquer a pour synonyme enseigner. D'où l'importance du culte de famille. Nous vivons dans une société, dans un monde où on est bousculé par toutes sortes de pressions. Mais n'oublions pas les priorités. N'oublions pas les priorités. Et si Dieu a ordonné cela à Israël, ce principe biblique demeure pour nous aujourd'hui. Élevez vos enfants dans le Nouveau Testament, Éphésiens 6, verset 4, en les corrigeant et en les instruisant dans la discipline du Seigneur. La première fois que j'ai été en Afrique, au Burkina Faso, je me suis trouvé au culte de l'église de la station missionnaire que votre pasteur connaît. Et bien sûr, il chantait en moré. Moi, le moré, je ne connais pas. Quelquefois, je reconnaissais la mélodie de cantiques que nous chantons, nous, dans notre langue maternelle. Et puis, j'ai entendu un chant, puis le refrain qui revenait, mais je dis, mais ça me dit quelque chose. Et puis, au dernier chœur, j'ai chanté avec eux en moré. Bang Bezim, Zim, Wenam, Bigazim. Je ne sais pas s'il y a des Burkinabés ici.
Il y en a.
Il y en a là-bas.
Il y en a là-bas.
Pambibzim, Zim, Wenam, Bigazim, Pangabe, Pangabe. Pambibzim, Zim, Wenam, Bigazim, Pangabe, Wenam, Bigazim. J'avais appris ça à 9 ans. Ça faisait 40 ans. À l'école du dimanche, une sœur missionnaire était venue et nous avait appris ce petit chœur en moré. Et 40 ans après, le fait de l'avoir entendu 3-4 fois, ça m'est revenu en mémoire, j'ai chanté avec eux. Quelqu'un a dit: le cœur de l'enfant est comme de la cire, tout s'y grave. Mais comme du granit, tout y reste gravé. Mes frères et sœurs, vous qui avez fait ce que vous avez pu de tout votre cœur pour vos enfants, et qui malheureusement n'ont pas suivi la voie du Seigneur ou l'ont abandonné, ne vous découragez pas, mais croyez dans la puissance de la parole de Dieu. Une de nos filles, qui a vécu une expérience malheureuse, ensuite s'est révoltée contre Dieu, a abandonné la voie du Seigneur, et elle est revenue au Seigneur, Dieu soit loué. Ne désespérez jamais. Et elle nous a dit, elle a dit à sa maman: « Maman, on ne peut pas oublier ce qu'on a appris dans notre enfance. » Alors, vous ne découragez pas, mais priez et croyez dans le Dieu de la grâce, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. J'aimerais vous lire ce que le pasteur André Thomas Bresse a écrit en introduction dans son livre « Anecdotes qui font réfléchir ». Ça s'est passé aux Indes. Dans une gare de chemin de fer, le quai était envahi par une foule de voyageurs attendant le train, prêts à entrer en gare. Il faisait très chaud. Un vieillard, voulant traverser la voie, tomba au milieu des rails, frappé d'insolation. Personne ne bougea. On avait reconnu à certains signes il appartenait à la caste dite des intouchables.
une catégorie d'habitants de l'Inde située au plus bas de l'échelle sociale. Ils étaient considérés comme la catégorie située au niveau maximal d'impureté. Les tâches les plus viles leur étaient dévolues. Le simple contact avec un intouchable exigeait des rituels de purification. Si la législation actuelle de l'Inde a actuellement supprimé la notion d'intouchabilité, les mentalités ont du mal à évoluer, surtout en lieu rural. On entendait siffler le train qui entrait en gare. Toujours la même indifférence pour cet homme tombé sur les rails. Mais un chrétien, qui venait de pénétrer sur le quai, réalisa l'horreur de ce qui allait se passer. Il se précipita sur la voie, saisit le vieillard à bras-le-corps et le tira hors de la voie juste au dernier moment où il allait être écrasé par le train. « Pourquoi ?» demanda-t-il au hindou qui était resté passif. « Laissiez-vous cet homme périr sur la voie ?» Et ils répondirent, « Ce n'est qu'un paria. Notre religion nous interdit de toucher un tel homme. » Et moi, dit le chrétien, ma religion veut au contraire que je le sauve. Ah, ça me fait penser à une certaine parabole donnée par Jésus, la parabole du bon samaritain. Vous connaissez l'histoire ? S'il n'y avait eu que le sacrificateur, le lévite, le pauvre, il serait mort. Heureusement qu'il y avait le bon samaritain. Mais au fait, quand on y réfléchit, le sacrificateur comme le lévite, c'était des croyants. Ils étaient habitués au temple, à la synagogue. Ils connaissaient la Torah. Ils chantaient les psaumes. Ils priaient l'Éternel, le vrai Dieu. C'étaient des croyants, des pratiquants, mais capables de passer à côté de quelqu'un gisant dans son sang avec une cruelle indifférence. Que Dieu nous garde d'être de ces gens chrétiens, mais qui ne se soucient nullement de ceux qui ne vont pas se faire écraser par un train, mais de ceux que le diable a entraînés dans les tourments éternels et pour lesquels Jésus a donné sa vie sur la croix pour les sauver. Soyons des témoins, mes frères et sœurs. Vous recevrez une grande force, dit le Seigneur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus n'a pas dit « et vous serez de bons chrétiens », ce qui est une logique. Jésus n'a pas dit « et vous parlerez en langue », ce qui est le signe évident du baptême dans le Saint-Esprit. Mais Jésus a dit « vous recevrez une grande force, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins ». Et vous savez quel est le verset suivant ? Je viens de citer Acte 1:8, point. Acte 1:9, après avoir dit ces paroles, il fut élevé. Ce furent ses toutes dernières paroles. On attribue beaucoup d'importance aux dernières volontés exprimées par quelqu'un qui va quitter ce monde. Mes frères et sœurs, que Dieu nous fasse la grâce d'avoir le cœur de Christ. Connaître Christ, ce n'est pas seulement l'admirer, ce n'est pas seulement l'adorer, mais c'est aussi le servir. Et c'est le servir en essayant de témoigner au maximum autour de nous en faveur de ceux qui périssent loin de Dieu. Et si nous travaillons, le Seigneur travaille avec nous. Amen. Le Seigneur travaille avec eux. Je terminerai par un témoignage. Une de nos assemblées dans le nord de la France a malheureusement été cambriolée. Les instruments, la sono, tout ça, c'est parti. Le pasteur a dû, bien sûr, pour les assurances, porter plainte contre X. Et une femme commissaire est venue pour essayer de prélever des empreintes. Elle a fait son travail. Et quand elle eut terminé, elle se trouvait près de la table de publication
Elle dit au pasteur, vous avez notre métier déprimant. On sait, ça a été dit aux informations, qu'en une année, en 2015, 55 policiers français se sont suicidés à cause de la surcharge de travail et à cause du climat de violence, enfin la débâcle actuelle. Elle disait donc, notre métier est de plus en plus déprimant. Vous n'auriez pas parmi ces livres un livre qui pourrait me faire du bien. Je cite mot à mot les paroles que le pasteur m'a rapportées. Et bien sûr, il a sauté à pieds joints, il lui a offert la Bible, avec un livre que vous connaissez pour certains, Jésus, ce célèbre inconnu. Et la dame, enfin, le frère me raconte ça, il dit, ah ben c'est bien, il dit, attends, c'est pas fini. Ah bon ? Et la suite. Cette dame, commissaire de police, habite juste en face d'une église évangélique qui n'est pas des assemblées de Dieu, mais qui fait partie du CNEF, une église sérieuse. Parce que nous avons aussi des frères et sœurs en dehors de nos assemblées. Alléluia. Et enfin, elle s'est décidée de traverser la rue. Elle est allée à l'église, elle a écouté l'évangile. Elle s'est convertie, elle s'est fait baptiser. Et le frère d'ajouter, l'année d'après, c'est sa maman qui suivait le même chemin. Semons, dit un vieux cantique, semons, Dieu seul peut faire éclore, de lui seul attendons le fruit. Vous serez mes témoins. Vous permettez que je vous pose une question et après je me tais. Ne me répondez pas, s'il vous plaît. La dernière fois que vous avez témoigné à quelqu'un, donné un évangile, un 11e heure, un Nouveau Testament, une Bible, votre témoignage, la dernière fois, ça remonte à quand ? Vous recevrez et vous serez mes témoins. Que le Seigneur nous garde du péché du silence. Ce chrétien n'a pas supporté au risque de sa vie. Il a arraché cet intouchable, cet homme soi-disant corrompu, soi-disant souillé. Il a risqué sa vie pour lui sauver la vie. Dieu ne nous demande pas de risquer notre vie. Jésus a donné la sienne sur la croix. Mais il nous demande de collaborer avec lui. Le bien le plus précieux, on ne veut pas le garder égoïstement pour nous, mais on veut le partager autour de nous. Semer, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donner, et il vous sera donné. On ne s'appauvrit pas en bénissant les autres, en leur faisant connaître Jésus, mais on les enrichit, et le Seigneur nous comble de ses bienfaits. Que le Seigneur vous aide. Amen.
Amen. Tu pries.
Notre Père, nous te bénissons de ta grâce. Les mots sont trop faibles pour t'exprimer notre adoration, notre reconnaissance, notre amour. Oui, tu es vraiment riche en grâce, comme nous le dit ta parole, pour ceux qui invoquent ton nom. Et nous te prions pour que cette grâce nous renouvelle, Seigneur, que non seulement nous puissions mieux te connaître afin de mieux t'aimer et de mieux te servir, mais que nous puissions aussi te faire connaître autour de nous, dans notre génération qui s'en va vers la ruine. Pourtant, tu as donné ta vie, ta volonté, c'est que tous soient sauvés. Seigneur, fais-nous grâce, que le feu de Dieu brûle dans nos cœurs, que la passion de Christ et la passion des âmes nous animent. Nous te le demandons, Père, secours-nous au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.
Amen.